Moi, j'en parle tous les jours.
Oh. De ces choses-là.
De qui, quoi?
De toi, pas forcément jouer le rôle du mec comme ci, comme ça et tout, de dire bah en fait ça aussi j'aime bien, je me l'échoue les oreilles.
Ces humains sont honteux de leur désir.
Une émission sur la chose.
Le monde dans le sexe non est tabou.
Moi j'en parle tous les jours.
Le consentement, c'est pas juste éviter les agressions, c'est aussi créer du bon sexe.
Ton corps peut jouer à tout ce qui lui plaît. Quand je te dis non, laisse-moi donc s'il te plaît. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps à toi, laisse-moi donc le mien.
Salut, aujourd'hui, on va vous parler de sexe.
Ouh.
Oh, c'est deg.
On ne va pas parler d'agression, on sait que ça existe, mais ici, on a décidé de s'axer sur des choses chouettes et qui nous donnent envie de faire du sexe.
On avait envie d'échanger autour de la séduction et de la sexualité, de comprendre d'où viennent nos tabous et comment faire pour les dépasser dans le but de créer d'autres imaginaires que ceux omniprésents.
On vous a concocté une émission en trois parties sur les sexualités. Aujourd'hui, on vous présente la première partie. Dans quel cadre tu parles du sexe ? Et comment tu en parles?
Ça fait un moment qu'on en discute, qu'on cherche par quel bout prendre le sujet, et il y a quelques mois, voilà ce qui nous est arrivé.
On a décidé notamment de se lancer dans cette émission suite à des interventions qu'on a faites dans le cadre du planning familial dans des collèges et des lycées. C'est des interventions qu'on fait depuis plusieurs années autour des questions de genre, de stéréotypes, de consentement, de sexualité. Et là, dernièrement, on s'est retrouvés à aller intervenir dans un lycée qui nous a amené à nous poser plein de questions sur nos manières d'intervenir et sur des éléments qui nous manquaient pour faire des interventions qui nous plairaient plus.
Et du coup, pour parler de cette intervention en particulier, en fait, du coup, on avait eu des échos. On a une amie qui travaille dans ce lycée qui nous a dit que l'année passée, il y avait eu 4 plaintes pour viol ou agression sexuelle. On ne sait pas très bien à chaque fois laquelle des deux dénominations a été retenue. Quand on a su ça, et déjà depuis un peu de temps, on contactait la direction en disant qu'on peut revenir, c'est un lycée dans lequel on est déjà venu faire des interventions. Et du coup, on disait on peut revenir, peut-être il y a un besoin. Et ça a mis vachement longtemps. Et il a fallu quand même que les lycéennes, elles posent des demandes assez claires dans l'idée qu'elles voulaient qu'on vienne intervenir. Et c'est là qu'on voit que quand même, alors que c'est prévu par les programmes scolaires, que normalement il y ait des interventions sur les questions de sexualité assez fréquemment dans l'année, etc., et ben c'est hyper dur de venir intervenir dans ces cadres-là. En plus, malgré le fait que la situation là-bas était assez trash, enfin, même si on sait qu'elle l'est ailleurs aussi, hein, c'est bêtement des questions de pourcentage, on sait que dans plein d'endroits il y a des agressions, et que là quand même c'est assez impressionnant de voir qu'il y a eu des plaintes, plusieurs quoi, à la suite, ça a ouvert la parole. Mais voilà, qu'on a vu que c'était hyper dur d'y aller alors que normalement c'est prévu.
Donc on est parti sur un atelier sur le thème du consentement. On avait déjà une trame qu'on avait travaillée avec des troisièmes. Mais là du coup, on a dû l'adapter en fait au fait qu'on venait pour aussi une demande précise, qu'il y avait des personnes parmi les lycéens qui avaient été agressées et des agresseurs. Donc on avait ça aussi à prendre en compte. On a proposé les ateliers en mixité choisie, notamment pour que la parole soit plus libérée. On voulait éviter que ces ateliers-là, ils ne culpabilisent trop les personnes qui ont été agressées. Et on voulait aussi que les agresseurs aient une prise de conscience suite à ces ateliers. Donc au final, ce qu'on s'est rendu compte, après le premier atelier qu'on a donné, c'est qu'on était parti sur vraiment des ateliers de prévention des agressions et que c'était très lourd, très intense.
Et peut-être juste pour revenir sur la question de culpabilisation des agressés, c'est pour que ce soit un peu plus clair, c'est qu'en fait, à travers le consentement, il peut y avoir une fausse idée que le consentement, et si on met bien en application comme un type de recette, et ben il n'y aurait pas de situation d'agression, et que ça pose une fausse idée de s'il y a eu agression, c'est que j'ai pas été une bonne élève du consentement ou je ne sais quoi, et que c'était absolument ce qu'on voulait éviter de faire passer.
Suite à ces ateliers-là, on s'est mis hyper au clair sur ce qu'on avait envie dans la vie et ce qu'on n'avait pas envie, hein. C'est bien pour obtenir le consentement. Non, mais on s'est dit que voilà, on n'avait plus forcément envie d'intervenir en mode un peu pompière, c'est-à-dire d'intervenir en urgence suite à des situations un peu de crise liées aux agressions sexuelles, et qu'on avait envie aussi de trouver la manière de parler de sexualité pas que par le prisme de la violence et des agressions sexuelles, mais justement aussi par le prisme du plaisir, de ouvrir les imaginaires sur la sexualité, de casser des questions de normes autour de la sexualité et tout ça. On s'est rendu compte qu'on manquait d'outils pour ça, qu'on savait pas très bien comment faire. Et pour ça, on s'est dit, bah tiens, on n'a qu'à aller réfléchir à ça en faisant cette émission.
On est allé interroger des copains et copines sur leur rapport à la sexualité et sur comment ils pratiquaient le sexe et comment ils et elles en parlaient.
Et ce sont surtout des personnes cis qu'on a interrogées. Ça devait être à la base un micro-trottoir qui se transformait en micro-boudoir dans un cadre beaucoup plus intime.
Moi, je suis qu'avec des gars aussi, pareil, dans le cadre du boulot, c'est un internat. Et on n'a pas forcément des discussions très approfondi, mais on essaye de les reprendre sur des façons de parler qui peuvent être un peu trash et essayer de questionner un petit peu la discrimination qui est derrière souvent. Ça s'approfondit pas des masses ces discussions, mais je sais que du côté des filles, ma collègue a des discussions beaucoup plus poussées sur le sujet, où là ils apportent vraiment leurs histoires personnelles en fait.
Mais après, l'éducation et les choses données font que la première approche, je dirais, à la sexualité, c'est fait via les médias et la pornographie, quoi. Enfin, quand t'es un mec, avec toute la déformation qui va avec, quoi. Enfin, à l'égard du corps, à l'égard de toi-même, de ta sexualité, à l'égard de l'autre personne. Enfin, sincèrement, on n'en parle pas et puis on ne reçoit pas une éducation affective et sexuelle, quoi. Enfin, on ne nous apprend pas le respect quand on fait l'amour ou comment le consentement. Enfin, c'est des choses que finalement, chacun, j'ai l'impression, se fait sa propre version des choses. Mmh. À force de ne pas parler, quoi.
Déjà, moi, j'ai mis du temps à parler de sexualité avec les potes. J'ai eu une sexualité avant d'en parler. J'avais 16 ans quand ça a commencé, ma sexualité. Et j'étais très amoureuse et c'était trop chouette, mon rapport avec mon amoureux. Mais j'avais plein de questions dans ma tête et je savais pas si on faisait bien, et je me souviens j'étais hyper dégoûtée par mon corps parce que il y avait beaucoup de fluide qui sortait de mon corps quand on faisait l'amour avec pénétration, ce qu'on faisait la plupart du temps parce que je savais même pas qu'il y avait d'autres trucs. et du coup je me sentais sale. Et je savais pas si c'était que moi qui avait ça, si j'étais normale, et je n'osais pas en parler ni avec lui, ni avec mes amis. Je me souviens, le seul truc qu'il y avait eu, c'était que j'étais trop excitée, on l'avait fait, et du coup, il y avait eu un moment, je rentrais à l'internat, et puis il m'avait dit « Alors ?» parce qu'il savait que j'allais le voir, et du coup, j'ai dit « Ouais, on l'a fait, et tout. Oh, c'est pas vrai, et tout. » Et puis c'est tout, c'est ouf, comment on dit pas plus, quoi. Il n'y avait même pas, je crois, la question, ça s'est bien passé. bon, voilà.
Il n'y a pas souvent des espaces où on peut en parler. Avec les parents, c'est toujours un peu compliqué. Avec les profs, il y a toujours une sorte de barrière. Et puis une idée de jugement, en fait, mine de rien, derrière tout ça, tout le temps. Et là, le fait d'en parler vraiment, voilà, avec ses potes, en mode petite réunion le soir, et tout, ça nous fait aussi un petit truc de complicité qui est vraiment... Enfin, comment dire, qui est bénéfique dans le sens où on sait qu'on va en rigoler, on sait que en même temps ça va pas être sous le ton de la moquerie, ça va être plus dans la compréhension, dans justement le partage d'expérience et tout, et c'est vraiment, ça peut apporter. On reste dans un truc, même si c'est plus profond qu'avec d'autres personnes, dans un truc un peu superficiel. genre de on va pas trop loin parce que ça brûle quand même, voilà. Mmh. C'est un côté tabou. On a un ami voilà qui est genre qui est un peu enfin, au début qui avait un peu des problèmes de précocité. Mmh. Il y en avait un autre qui avait des problèmes justement de genre de panne un peu et tout, non, et bref, et tout ça en fait genre, on en a parlé entre nous et là-dessus justement c'est le niveau où c'est pas encore trop superficiel.
Moi je trouve que les réseaux sociaux ont vachement facilité la chose aussi, dans le sens où il y a beaucoup plus de gens qui prennent la parole par rapport à leurs expériences, et du coup bah tu lis des choses, tout ça, je trouve ça beaucoup plus facile d'en parler. Du coup
il y a plein de moments avec des copines où on en parle. On est d'accord pour dire qu'on n'est pas assez à l'aise pour en parler avec nos partenaires, par exemple. Genre, on n'est pas assez à l'aise pour dire « ça, ça va me plaire, ça, ça va pas me plaire, ça, je suis pas prête, ça, j'ai pas envie. » Et au final, on est un peu toutes d'accord pour dire qu'on n'est pas hyper à l'aise, quoi, dans nos relations. Même si c'est chouette et tout, la vie affective, bah, on n'est pas hyper satisfaite de comment ça se déroule, au final. Mais du coup, on essaye un peu de se donner des techniques, genre de bah, moi, une fois j'ai fait ça et ça a marché.
Bah, moi j'en ai toujours parlé avec mes copines quand même, adolescentes, même quand j'avais rien à raconter. Enfin voilà, en tout cas, il y avait un échange d'expériences, de corps qui se métamorphosent aussi. Moi j'en parle tous les jours. Non, c'est pas quand même, mais très régulièrement, puisque je vis avec 5 autres femmes qui ont toutes leur histoire diverses et variées.
J'ai l'impression que mes vieux potes, on parle pas trop de cul, parce que je pense qu'on a une éducation, ou en tout cas des relations qui fait qu'on en parlait pas trop, et du coup on sait pas trop mieux en parler. Et je pense qu'avec des nouveaux potes que j'ai connus plus récemment, et dans des milieux plus féministes, où du coup il y a plus l'habitude de parler de ces sujets-là, ou plus l'envie de parler de plaisir, de parler de consentement, et du coup ça lance des sujets un peu là-dessus. Avec mes colocs, on en parle vraiment beaucoup, et soit en déconnade, soit en petit partage d'expérience, ou... pour se parler de notre libido ou de nos parfois nos non-libido. Qu'on avait un moment jouissance club qui traînait un peu, et le matin, ou enfin des fois dans la journée, il y avait des petits feedbacks, genre tiens, on a essayé ça l'autre jour, c'était trop marrant, je vous reconseille. Donc le cuni de la mer, page 67, d'ailleurs j'ai fait un petit stock de bouteilles d'eau gazeuse, donc n'hésitez pas à tester. Parfois il y a ça, mais après parfois c'est juste chacun raconte comment ça va. Pas forcément hyper concret aussi, parce que, ben je sais pas, comme on peut connaître les partenaires des unes des autres, je pense que c'est un truc de préserver l'intimité comme on connaît d'autres personnes, donc on raconte pas tout non plus.
J'en parle, je pense quasiment qu'avec les amis les plus proches, et du coup ils sont vraiment très proches, donc c'est assez facile. On peut aborder à peu près tous les sujets, par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce que nos pratiques, mais ça reste quand même pas mal une bande de mecs.
La sexualité parlée, c'est pas très fréquent chez les mecs. Hein. Autre qu'en le tournant en dérision ou du côté des blagues, mais on parle pas de sexualité. Enfin, quand ça va pas dans le couple ou quand ça va pas sexuellement ou autre ou affectivement. Enfin, c'est beaucoup plus rare d'en parler avec les mecs qu'avec des femmes en tout cas.
J'arriverai pas à dire à quel moment j'ai réussi à commencer à en parler avec les copains. Encore aujourd'hui, c'est pas une évidence.
Il y a des gens qu'on sent qui sont gênés avec tous ces trucs-là et du coup on évite les sujets à fond. Mais quand même, avec mes potes assez proches, j'arrive toujours à passer à aller au-delà de ces barrières qui sont leur timidité. Et puis...
Je crois que depuis que dans ma tête c'est hyper clair que c'est hyper important et que moi ça m'a sauvé plein de fois d'en apprendre plus et qu'il y en a qui se dévoilent et tout, je me dis pour le bien de l'humanité.
Ne vous fatiguez pas à parler. Je vis dans le monde du silence, parmi les trésors dans la mer, entre les pierres et les coraux. Je vous ai tous abandonnés, vous n'en avez plus aucun sens. Vous n'étiez plus que colère, mensonge, vulgarité et chaos. Là où je me suis réfugiée, bien à l'abri de vos propos. Il n'y a pas de misogynie, pas de racisme et pas de sot. Seulement voilà, je me fais chier. La vie est triste sans bourreau. Je n'ai personne sur qui cracher. Mes cris sont étouffés par l'eau.
Dans le monde du silence, je m'emmerde.
parce que le respect des gestes barrières ne s'arrête pas à notre intimité, et parce que notre vie affective et sexuelle ne devrait pas souffrir d'une pandémie mondiale, le laboratoire Speed Jouir a conçu pour vous le masque Safe Sex.
Safe Sex!
Muni d'une membrane en latex extra souple au niveau de la bouche, le masque Safe Sex vous permet de rouler des patins et de pratiquer du sexe oral protégé du coronavirus et des maladies sexuellement transmissibles. Il est disponible dans tous les magasins et pharmacies partenaires.
Mieux qu'une digue dentaire, le masque Safe Sex.
On a reçu des témoignages qui étaient assez riches et divers, mais ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a vraiment un consensus sur le fait qu'on parle pas assez de sexualité. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a un manque d'éducation affective et sexuelle de manière générale.
Le tabou, il reste du coup hyper présent sur ces questions-là, et notamment avec cette histoire aussi à l'école des questions du genre qui devaient arriver dans les programmes scolaires et qu'il y a ce fantasme d'incitation je sais pas moi, à l'homosexualité ou à qui a permis de mettre cette question de la repousser quoi de l'école.
Et d'ailleurs, il y a une chercheuse qui s'appelle Gabrielle Richard qui en parle très bien dans son essai Hétéro l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité. Et dans la toute première partie, elle explique en fait que les séances d'éducation à la sexualité en France, elles sont principalement mises en place dans une perspective sanitaire et préventive. Donc on va parler plutôt contraception, IVG, IST, et il y a assez peu de place pour parler de désir et de plaisir.
Ce qu'on entend pas mal aussi dans cette première partie, c'est les questions du normal, du naturel, de la norme, de ce qu'on devrait attendre d'une sexualité ou de ce qu'on sait pas de nos corps et des pratiques. Et du coup, il y a tout un rapport aussi sur les mots qui sont utilisés ou le dégoût qu'on peut associer soit à des mots, à des pratiques. Et aussi sur le fait qu'on en parle aussi plus facilement de sexualité quand y a des problèmes en fait plutôt que enfin vu comme des problèmes, donc ce qui montre aussi cette histoire de normes qui est là.
Ouais, et par rapport à ce qui était dit tout à l'heure autour de comment est faite l'éducation affective et sexuelle dans les écoles ici, on a pu voir quand on a essayé avec par exemple le planning familial d'aller faire des ateliers dans des établissements scolaires, que la question de laisser des préservatifs à disposition des élèves posait toujours beaucoup de problèmes dans cette idée de dire « Ah, mais si vous laissez des préservatifs à disposition, ça va leur donner l'idée d'avoir des relations sexuelles. » Et du coup, qu'il y a tout ce truc du fantasme, un peu de l'incitation à la sexualité aussi, en fait, qui a à déconstruire dans le fonctionnement des établissements scolaires et dans la tête des adultes qui y travaillent.
Du coup, il y avait déjà, après on le développera aussi dans la deuxième émission, mais tout un petit truc sur le risque à parler de sexualité. Et qu'en effet, on voit que parler de sexualité, c'est une question aussi d'éducation genrée. On parle pas de la même manière de sexualité quand on est éduqué comme un petit garçon ou quand on est éduqué comme une petite fille, et ça pose pas les mêmes questions aussi. La sexualité, en parler et assumer des pratiques quand on est un homme ou une femme dans cette société. Et d'ailleurs, c'est très vision comme ça, binaire, et que du coup, les risques à en parler, il y a aussi tout un truc de passer pour une personne obsédée ou quelqu'un qui serait attardé sur les questions de sexualité, qui serait pas à jour, ou ça renvoie à un espèce de truc qui peut être de dégoût, de sale, et que tout ça, c'est aussi vachement inscrit dans notre culture judéo-chrétienne, dans ce qu'elle a créé. Sur l'image de la sexualité et notamment du plaisir et notamment du plaisir des femmes et qu'il y a pas mal d'écrits, de BD, on pense peut-être à Liv Stromisk, mais il y en a d'autres aussi qui reposent un peu ces questions.
Et concernant l'influence de notre genre sur notre éducation quand on parle de sexualité,
Il y a une notion dont je voulais parler, c'est la charge sexuelle et affective, dont on parle pas mal en ce moment et qui fait écho au concept de charge mentale et émotionnelle dont a un peu médiatisé la dessinatrice Emma sur Internet et qui repose en fait sur les épaules des femmes, souvent dans les couples hétéros, celles qui vont aller chercher des solutions pour améliorer leurs relations. Qui vont centrer, mettre leur plaisir et leur désir souvent en second plan et culpabiliser si elles n'arrivent pas à faire en sorte que la relation se passe bien. Et il y a beaucoup de femmes qui sont également, qui se retrouvent face à la difficulté de leur compagnon de verbaliser en fait sur ce sujet-là. Parce que justement, ils ont été éduqués de manière genrée au masculin. Et donc, ils n'ont pas eu cette habitude-là de parler. Et il y a certains qui refusent même de s'exprimer sur le sujet. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu l'occasion. Ils ne savent même pas quoi dire. Ils ne savent pas comment mener et alimenter la conversation. Et si on en parle, c'est qu'il y a forcément un problème.
Pourquoi on s'étonne que parler de sexe soit tabou ? Quand on voit toutes les contradictions et injonctions que ça entraîne. Notre sexualité doit être issue d'un consentement éclairé par la communication entre nous et nos partenaires. Elle doit être épanouie, régulière, spontanée, créative, mais pas trop non plus. Notre premier rapport doit être à 17,4 ans, pas beaucoup plus tôt, mais surtout pas trop tard. On doit en parler, mais pas explicitement, et surtout, on doit aimer ça. Moi, comme plein de gens, j'ai essayé de jongler avec ces impératifs, et aussi d'exprimer à mes partenaires que... Waouh, c'était vraiment super. Alors qu'on va pas se mentir, c'est pas toujours le nirvana, surtout quand je faisais semblant que tout allait bien. Quand je me disais, c'est plus simple de continuer que d'expliquer pourquoi là je suis plus excitée. Surtout que là j'aurais dû sortir des mots. Mais si tu sais, les mots tabous, cul, anus, bite, schneck, chatte, pénis, foufoune, vulve, baiser. Et puis après il faut les assembler pour faire des phrases. Et là c'est hyper gênant. Parce que si je dis un truc, c'est que le sexe, c'est bif-bof. Donc c'est l'échec. Tu me suis ? Pour résumer, si j'étais pas aussi stressée d'avoir une sexualité régulière, spontanée, créative, mais pas trop, et surtout épanouie, bah j'aurais su dire « tu peux aller plus vite avec ta langue sur mon clitoris » ou « j'aime pas trop quand tu me pénètes vite » ou « j'aimerais bien que tu me mettes un doigt dans mon anus ». Et là, eh bah on se sort le tabou du cul, tout simplement.
Avec mes collègues, on en parle vraiment beaucoup, et soit en déconnade, soit en petit partage d'expérience, ou pour se parler de notre libido, ou de nos parfois nos non-libido. On avait un moment Jouissance Club qui traînait un peu, et le matin, ou des fois dans la journée, il y avait des petits feedbacks, genre tiens, on a essayé ça l'autre jour, c'était trop marrant, je vous reconseille. Donc le cuny de la mer, page 67, d'ailleurs j'ai fait un petit stock de bouteilles d'eau gazeuse, donc n'hésitez pas à tester.
En tout cas, je trouve ça plus agréable quand on parle de sexualité en petit groupe, ou à pas très nombreux, à 2-3, que quand ça se fait avec plein de gens, notamment quand c'est les deux sexes. Parce que souvent, je trouve qu'on n'est pas sincère quand on parle comme ça. Enfin, justement, on est un peu sur la blague et le charriage. Et du coup, avec plein de gens qui se permettent de dire des lieux communs ou des trucs, et que des fois, je trouve qu'il y a des trucs vachement violents.
Même avec les gars, des gars qui te demandent est-ce que tu regardes du porno, moi même si j'en regardais de temps en temps, j'ai toujours dit non, je regarde pas ça parce que ça met mal à l'aise d'en parler en fait. Ça me renvoie au fait que eux, ils ont des histoires, qu'ils ont pas besoin que du porno pour avoir du plaisir ou avoir un rapport à la sexualité. Et que moi c'était mon cas et que du coup, moi j'essayais d'éviter la conversation quoi. Parce qu'il aurait fallu que je me justifie, moi j'ai jamais rien fait et puis.
Tu sens que tout le monde a envie de, de dire des choses, mais à quel point il faut se révéler ou pas, à quel point tu passes pour une obsédée ou à quel point c'est bien de garder des trucs intimes. Tu sais, il y a un truc comme ça qui se joue à chaque fois, j'ai l'impression.
Je pense qu'on a tous des défis qui sont assez différents. Qu'est-ce que c'est l'intime? De quel endroit ça s'arrête, l'intimité des autres, la nôtre. Enfin, comme sur un truc de corporel, quoi. C'est assez propre à chacun, l'histoire de l'intime. Je mets dans la boîte noire.
Je crois que ça m'a beaucoup aidé aussi, le milieu féministe, parce qu'il y a eu des formations ou des interventions sur des sujets variés sur la sexualité qui m'ont fait me dire « Ok, en fait, on peut en parler, et puis il y a plein de choses à dire, et puis il y a plein de choses sur le corps qu'on m'avait jamais dit avant. »
Et je pense qu'après, il y a eu deux nouveaux éléments de ma vie qui ont fait que j'ai eu une parole de plus en plus libérée là-dessus, c'est la rencontre du féminisme et après la vie entre femmes. En fait, je crois que ça m'a vraiment libérée dans le sens où je sais mettre des mots sur ce que j'aime et du coup aussi de pouvoir le dire à mon ou mes partenaires, quoi.
Je crois, j'essaye d'être assez direct, sur, de pas trop avoir peur des mots, et puis d'essayer de faire un peu d'humour aussi, mais en subtilité, et pour juste décontracter un peu l'atmosphère, et puis mettre un peu les gens à l'aise. Et, mais bon, j'ai pas fait ça 1000 fois non plus, hein, dans ma vie.
J'ai l'impression qu'on utilise pas mal l'humour quand on parle de sexualité.
J'aimerais avoir des mots mieux souvent. Que la gêne que ça peut provoquer, moi je vais un peu la dépasser en disant des mots comme la baise, enfin tu vois, des trucs un peu crus comme ça, enfin en tout cas que je vais avoir tendance à pas utiliser des mots de la langue scientifique machin, ou des mots crus qui moi mettent plus à l'aise, mais souvent mettent plus mal à l'aise les autres.
Ça veut dire des trucs hyper précis de genre oui non mais en fait je me suis rendu compte que j'aime beaucoup la levrette et ça me gêne parce que c'est quand même une position qui me fait un espèce de truc de soumission et machin et du coup ça me lâche aussi à parler de trucs pas vachement plus intimes ou précis, tu vois, à mettre le doigt sur des choses, quoi.
Moi j'ai été hyper contente à chaque fois qu'il y a eu des trucs trash, des trucs où les gens ils posent vraiment des mots, ils parlent de trucs très concrets et t'es là et t'es trop contente parce que là c'est concret, tu peux en parler, tu peux dire des choses.
Même dans le couple en fait c'est tabou, mine de rien. Enfin, en parler très ouvertement, etc. et tout comme ça. Enfin, je dirais qu'il y a quand même un délire de communication quand même dans le couple parce qu'il faut pas casser l'image de genre ouais. Enfin, pas je suis tout puissant ou. Il y a quand même un truc de genre bon ben voilà, le sexe on le fait dans le noir, on fait nanana. Enfin, je vais pas. Enfin, voilà, c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a quand même un délire de pudeur et de machin qui nous empêche d'en parler aussi ouvertement que vas-y, passe-moi le peur.
Petit à petit, j'ai appris à poser des mots. Et c'est surtout, disons, mon deuxième copain, parce que moi j'ai surtout eu des relations hétéro. Et mon deuxième copain, en fait, il était hyper maladroit et il me faisait mal parce qu'il voulait me donner plaisir avec ses mains, avec ses doigts, il me faisait hyper mal. En fait, le premier copain, il a jamais essayé, donc ça voilà. Mais lui, il essayait, mais il me faisait vraiment mal et ça me faisait même des infections urinaires, des choses comme ça. Et en fait, là, j'ai commencé à mettre des mots par nécessité extrême. En fait, je me taisais, j'avais mal. Tu vois, je disais non, on arrête comme ça. Il comprenait rien, il continuait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, en fait, faut que je le dise. Et donc, je l'ai dit, et je l'ai dit en mode ah, j'étais au bout, donc j'étais vénère. J'ai dit, tu me fais mal en fait, tu fais pas du tout attention. Et puis ça me fait mal. Et après, j'ai fait en mode parce qu'il était très mignon et qu'il dit, ah bon. Et du coup, je me suis calmée et j'ai fait en mode pédagogique. Donc, j'ai expliqué, en fait, si tu me touches, par exemple, le clitoris, faut pas que tu le touches directement, moi, ça me fait mal. Faut que tu touches avec de la peau dessus, quoi, avec son petit capuchon. Après, ça dépend de chaque personne, hein. Mais moi, il faut ça, sinon ça me fait trop mal. Et puis en fait, j'aime pas quand tu mets tes doigts à l'intérieur de moi, ça me fait mal. Comment tu fais? Je préfère juste qu'on fasse pas, ou des choses comme ça. Et j'étais tellement soulagée quand je l'avais fait. Après, j'étais là. Donc c'est possible, et je l'ai fait, et c'est pas la fin de notre relation, et il m'a pas dit que j'étais trop dégueu et tout ça. Enfin, j'étais, waouh, c'est possible. Sauf que, après j'étais hyper déçue parce que malgré ça, il a recommencé, donc en fait il faut réexpliquer.
Enfin, j'ai l'impression, le fait qu'il y ait pas trop d'enjeux de performance en tout cas,
pas un truc de il faut que ce soit comme ça pour que ce soit mieux, ou il faut que ce soit comme ça pour que j'ai du plaisir. C'est déjà sur une base où on est arrivé à une bonne entente affective et sexuelle, et du coup sur cette base là on se faisait plutôt confiance pour s'écouter et se dire des trucs qu'on n'aurait pas forcément dit à tout le monde dans le plaisir.
Je pense que j'ai pas confiance trop en moi, et du coup le fait, je pense, de là être dans une relation amoureuse qui est un peu stable, ou en tout cas du coup on passe beaucoup de temps ensemble, donc on se connaît mieux, et du coup ça, on ose plus dire des trucs intimes de l'ordre de, ouais, de envie de cul ou de fantasme, un truc comme ça. Du coup il y a un truc de je te connais, du coup je te fais suffisamment confiance parce que je sais que tu vas pas la réutiliser contre moi pour te moquer, ou que ça va pas sortir de ce moment intime qu'on partage.
Bah, des fois tu prends des habitudes de pas dire les choses. Je pense que c'est une fois que l'habitude elle est instaurée, quoi. Une fois que ta relation elle est construite dans un certain mode, tu prends l'habitude de pas parler de certaines choses, et ben c'est super dur d'en parler du coup après. Parce que ben les sujets ils ont pas été abordés, du coup juste t'en parles pas, quoi.
Plus la société on sent que ça parle, ben ça donne envie, je pense, d'en causer plus. Enfin, je pense qu'il se passe un peu ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui bougent. Je sais pas si c'est parce que j'ai changé de réseau, ou si c'est aussi ben, l'époque qui change aussi. Et plus on en parle avec des copines ou des copains, plus on écoute des podcasts où ça en parle, ou des émissions ou quoi, plus on lit des trucs, bah plus on a déjà des mots pour en parler, plus on en parle, plus on peut chercher plus de plaisir dans le cul.
Bon bah Skyrock, après, il racontait pas mal de la merde dans les émissions de Libre Antenne où il parle de sexualité, notamment où ça construit pas mal plusieurs générations d'adolescents et d'adolescentes. Et pour le coup, sur le Move, je trouvais qu'il y avait, notamment c'était... une meuf qui gérait un peu cette émission et qui faisait intervenir des sexologues, qui faisait intervenir des gens qui étaient plutôt intéressants, je trouvais, et qui donnait des conseils et qui disait un peu comment ça se passait réellement la vie. Et puis c'est un peu là aussi que j'ai appris, même avant de regarder du porno, c'est là où j'ai entendu pour la première fois, le porno c'est pas la vraie vie, et ça se passe pas toujours comme ça, et même plutôt rarement, et voilà, où les gens racontaient aussi les vraies histoires de la vraie vie, quoi. Baby pink behind all of the doors, crazy pink like the tongue that goes down, maybe pink like the paradise found, pink when you're blushing inside, baby pink is the truth you can't hide, maybe pink like the folds of your brain, crazy pink. Dans un petit camping, la nuit, dans une petite tente orange.
Putain, j'en peux plus, j'ai envie de niquer. Mais chut, ton camping va le savoir. Encore 3 jours, on aura une chambre avec des murs en béton.
Arrête, je vais rentrer en autocombustion. J'ai trop envie de toi.
Viens, on va dans mon corps.
T'es levé trop tard. Simère le réveil sonna dans la tente.
Ouais, 11h. Va y avoir tellement de monde à la douche. Bingo.
Attends, il y a une cabine de libre. Viens, on va se doucher à deux, ça ira plus vite.
Ok.
Bah, tu te changes pas.
Ok. Attends, je vais te laver le dos.
Tu me laves le dos avec tes seins.
Oui, c'est une nouvelle technique nordique.
C'est qui a pété? C'est ta mère.
Un jour. Un seul tout petit jour.
Debout! C'est le nom des chroniques!
Vous êtes bientôt arrivés.
Voilà, les clés de la chambre 12 pour 3 minutes.
Merci, bonne soirée.
Vite, vite, vite.
Ah oui là.
Oh.
On a cassé un truc, là.
Je crois qu'on a démis les lattes.
Ah ouais?
Oui.
Ça, c'est grâce à mon coup de rein légendaire.
Ah non, hein, les lesbiennes, elles cassent pas les lits. Ça fait du sexe doux et raffiné.
Du sexe doux? Je t'en foutrais du sexe doux.
Bon, fuck. On verra ça après.
Extrait de la BD Le vrai sexe de la vraie vie de Si.
Donc là, pour reprendre peut-être en lien avec des témoignages un peu avant sur la question de l'imaginaire et du fait qu'il soit limité, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est en tout cas un imaginaire hétéronormatif, du coup, qui est surtout présent et qui est aussi phallocentré, c'est-à-dire qui se centre autour notamment de la pénétration et de la pénétration pénovaginale, et qui la pose un peu comme un passage obligatoire, c'est-à-dire quand on va parler des premières fois ou quand on va entendre parler de sexualité, on entend beaucoup il y a les préliminaires. Alors j'aime pas trop ce mot parce que c'est forcément ce qu'il y a avant l'acte, et du coup c'est pas sur ça, sur ces préliminaires, donc qui sont juste pour préparer soi-disant la pénétration, qu'on va se pencher et qu'on va créer un imaginaire. Et il y a l'acte et il y a la fin de l'acte, et c'est-à-dire après l'éjaculation, il y aurait plus rien, ce serait comme la fin. Elle l'illustre bien dans Baiser après MeToo d'Igli. Elle écrit une lettre à celui qui ferme boutique après avoir éjaculé, et du coup voilà, ça met un schéma hyper normatif de ce que ce serait une relation sexuelle normale, et ça pose aussi ce truc de pression sur par exemple les personnes qui veulent pas de pénétration, les personnes où leur sexualité elle est pas basée sur une pénétration en tout cas hétérosexuelle, et beaucoup de pression parce que si par exemple, comme c'est mon cas, la pénétration, c'est pas au centre de la sexualité pendant tout un temps, ça pose des trucs de culpabilité, de je vais pas au bout de la sexualité qui est attendue, ou aussi des questions de normalité et pas normalité, quoi. De comme s'il y avait quelque chose de naturel qui est encore hyper basé sur l'imaginaire reproductif, quoi.
C'est pas anodin que le moment un peu phare de l'éducation sexuelle pour de nombreuses personnes, c'est la pose de préservatif sur un objet phallique. Donc ça peut être banane, balai, toutes sortes de choses. Et ok, c'est important de banaliser l'usage du préservatif chez les jeunes, mais le problème, c'est souvent le discours plutôt qu'il y a derrière cet exercice pratique. Et ça résume bien l'état d'esprit phallocentré de l'éducation sexuelle depuis toujours. Et il y a une prof d'SVT qui s'appelle Odile Fillot qui écrit souvent des textes sur le site SVT Égalité, où c'est un site où il y a plein de ressources et d'éducation, d'outils d'éducation sexuelle. Elle propose justement de re-réfléchir à cette pratique-là, mais même des adultes entre eux, finalement, quand il y a besoin d'utiliser un préservatif, ça peut amener des discussions sur le consentement, sur le fait qu'il y ait d'autres cas de pénétration, il n'y a pas que la pénétration pénovaginale, sur le fait que les capotes, ça peut être utilisé pour les cunis ou les anulingus, et ça permet aussi de parler, si on est entre jeunes ou moins jeunes, des rôles genrés entre filles et garçons.
Et si on revient un peu sur les questions de normes, en lien avec ce qu'on est en train de dire, là, on voit bien quand on va faire des ateliers en collège ou en lycée, parfois on met des boîtes à questions où les jeunes peuvent mettre les questions qui leur traversent l'esprit. Et il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec des questions normatives. Ça peut être combien de temps doit durer un rapport, quelle est la taille normale d'un pénis, à quel âge c'est bien d'avoir un rapport sexuel. Et voilà, on voit bien qu'il y a
vraiment une construction intellectuelle de la sexualité qui est faite autour de cette question de normes, et aussi que les questions tournent beaucoup autour de la pénétration, notamment les questions plutôt des personnes qui se disent filles tournent autour de est-ce que je vais avoir mal la première fois, la douleur, et les questions des personnes qui se reconnaissent plutôt comme garçons, de la question de la performance, voilà.
Rien qu'au niveau imaginaire, bah, des pénis on en voit partout, parce que c'est le symbole de la puissance. Mais où sont les vulves et les clitos? Souvent, c'est invisibilisé et mal nommé. Par exemple, la plupart des gens disent le mot vagin pour parler de la vulve. J'entends souvent ça. Et heureusement, depuis quelques années, par exemple, le clito, il est vachement mis en avant par des assos comme Clit Révolution. Et voilà, on connaît enfin l'anatomie complète du clitoris en 2021.
Pénis partout, vulve nulle part. Pénis partout, vulve nulle part. Pénis partout, vulve nulle part.
Et les autres.
Et juste du coup, pour revenir sur cette question de sexualité majoritaire dans l'imaginaire de pénétration donc hétéronormée et phallocentrée, ah, les gros mots, et ben en fait ça pose un truc des pratiques sexuelles différentes et qui sont pas sur ce schéma-là et qui seraient donc pas dans la norme, et qu'en effet les pratiques sexuelles elles sont pas vierges de définition culturel ou d'imaginaire, et du coup ici aussi il y a des rapports de pouvoir qui se jouent. Enfin, il y a eu un petit mot là-dessus sur la levrette dans les entretiens, et qu'en effet il y a l'imaginaire du porno, le mainstream, enfin plein de choses qui viennent mettre un poids aussi sur ces questions de rapports de pouvoir qui se joueraient aussi dans ces moments-là.
Pour terminer, le premier épisode de cette émission dans laquelle on s'est questionné sur ce qui facilite le fait de parler de sexualité et avec qui on en parle, on vous propose une petite rubrique sexo.
Alors j'ai été à la pêche aux infos pour te donner un bref aperçu de ce qu'on peut trouver comme ressources sur les sexualités et ouvrir le dialogue avec ta tantine Janine, ta bande de potes du lycée ou encore le boulanger de ton quartier. Donc sur internet, tu peux trouver des sites internet comme celui de Sexy Souci, qui est autoproclamé le Google du cul. Et elle a également une chaîne de vidéos YouTube. Donc c'est aussi accessible pour les jeunes qui se posent mille questions que les plus vieux qui s'en posent encore pas mal. Donc voilà, à conseiller à ta petite cousine. On t'invite aussi à aller voir le site InfoKiosk qui propose des fanzines en ligne sur différents thèmes, dont celui sexualité et relations affectives. Donc ça parle consentement, par exemple avec la brochure « Apprendre le consentement en 3 semaines », de consentement entre mecs dans consentement, un truc de PD. Et il y a plusieurs fanzines qui recueillent des témoignages de personnes s'identifiant femmes sur leur sexualité. Par exemple, les témoignages des chattes, dialogue avec ma vulve, plaisir de femme, ou encore feu au cul, un témoignage BDSM. À lire avec ta bande de copaines, bien au chaud sous la couette. Et il y a aussi le site Queer Education qui est en train de se monter avec plein de ressources, notamment si tu bosses pour l'éducation nationale ou dans l'animation. Et si t'aimes te faire bercer les oreilles, il y a les podcasts, comme celui de Camille sur Binge Audio, qui déconstruit les stéréotypes liés à l'identité de genre et les sexualités dans des épisodes comme Dans ton cul, où elle parle des rôles de genre sur le sujet de la pénétration. Le podcast Les couilles sur la table sur Binge Audio, à conseiller à ton grand frère et à ses potes. C'est des hommes qui prennent la parole sur des sujets comme le mythe de la vérité, la pénétration, l'influence du porno sur leur sexualité. Et pour conclure en beauté, deux bouquins fun et techniques, c'est deux petites bibles
dont on va vous parler dans les deux prochains épisodes de notre émission. Il y a le béaba du sexe entre meufs et personnes queer d'Alison Moon et KD Diamond, qui est sorti en 2020 aux éditions Water. Et il y a aussi Jouissance Club de June, qui est sorti en 2020 aux éditions Marabout. Et pour aller plus loin, on vous propose aussi une liste de ce qui nous a nous inspirés au cours de cette émission. Elle sera trouvable, par exemple, sous le curseur d'écoute de l'émission, en texte sur le site. Pink, like the lips around your... Maybe pink, like the skin that's under. Baby pink, where is deepest inside? Crazy pink, beyond forest and dice. Pink, like the secrets you hide. Maybe pink, like the lid of your eye. Baby pink, is where all of it starts. Crazy pink, like the holes of your heart. So here we are in the car, leaving traces of us down the boulevard. I wanna fall through the stars, getting lost in the dark is my favorite part. Let's count the ways we could make this last forever. Sunny, money, keep it funky, touch your top and let it down.